monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce lundi 17 septembre 2018. La CPI confirme la peine infligée à l'ancien chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Au Niger, la rentrée universitaire toujours bloquée. En Éthiopie, des manifestants paralysent la capitale après des violences ayant fait 23 morts. Dans la partie magazine, gros plan sur la libération de prisonniers politiques au Rwanda, dont l'opposante Victoire Ingabire, en exclusivité sur VOA Afrique.
Ça a été une grande surprise. J'espère que c'est le début de l'ouverture de l'espace politique au Rwanda.
Aux États-Unis, les inondations menacent encore le sud-est du pays après le passage de l'ouragan Florence. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. La Cour pénale internationale a confirmé ce lundi la peine infligée en première instance à l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. Raissa Girondin.
L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a été condamné à 12 mois de prison par la CPI pour subornation de témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. Après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée, a déclaré le juge Bertrand Schmitt, qui a réimposé une amende de 300 000 euros. Il avait été reconnu coupable d'avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. Pour la Cour constitutionnelle congolaise, la subornation de témoins est une circonstance aggravante dans l'infraction de corruption. Cette condamnation lui a valu d'être définitivement exclu de la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Bemba avait été acquitté à la surprise générale en appel en juin devant la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par sa milice, le Mouvement de libération du Congo, en Centrafrique, entre octobre 2002 et mars 2003.
Une dizaine de personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures dans deux des multiples conflits qui traversent l'est de la République démocratique du Congo. Deux soldats ont été tués en Ituri dans l'assaut d'un groupe non identifié contre des positions de l'armée congolaise hier le long du lac Albert. Ces civils ont également été tués et d'autres blessés dans la province voisine du Nord Kivu. Le directeur de la prison de Kiwanja et son épouse ont été tués par balle la nuit dernière. Toujours au Nord Kivu, six présumés rebelles, Mai Mai, ont été maîtrisés hier par les forces de sécurité alors qu'ils se trouvaient nus avec des armes blanches dans les rues de Butembo. Toujours en RDC, des experts britanniques ont identifié ce qu'ils appellent 15 risques à atténuer dans l'utilisation de la machine à voter. Ces experts de la Westminster Foundation for Democracy ont analysé les fonctionnalités de la machine à voter à la demande de la commission électorale congolaise. En Côte d'Ivoire, les pourparlers pour une réforme de la commission électorale indépendante vont s'ouvrir après les élections locales du 13 octobre prochain. C'est ce qu'a affirmé ce lundi à Abidjan le Premier ministre Amadou Gan Koulibaly, une option rejetée par l'opposition qui réclame cette réforme avant les élections. Quelques 2 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école en Sierra Leone ce lundi. Premier test pour l'enseignement gratuit dans ce pays. Une réforme phare du programme du président Julius Maada Bio. Au Niger, la rentrée dans les 8 universités a été bloquée par une série de grèves des enseignants. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Mais le ministre de l'enseignement supérieur durcit le ton. Le point avec Eric Manirakiza.
Le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, Nabala Adare, a indiqué que leur grève est reconduite pour 6 autres jours, du 17 au 22 septembre. Ces enseignants observent un arrêt de travail depuis le 3 septembre, date officielle de la rentrée universitaire. Ils exigent le paiement de 2 mois d'arriérés de salaire et 3 mois de recherche pour certains de l'université de Tillabéri. Ils exigent aussi la prise en charge des assurances maladie, le versement des frais d'encadrement, de perfectionnement et de soutenance. De son côté, Le ministre de l'Enseignement supérieur, Yaouza Sadissou, précise qu'il n'y a plus aucun arriéré de salaire dans aucune université. D'après lui, les quelques cas d'arriéré de primes de recherche et les avantages statutaires qui ne sont pas payés seraient bientôt apurés. Il demande aux enseignants de revoir leurs copies et de reprendre les chemins des facultés. Sinon, ils menacent de prélever des retenues sur leur salaire pour le nombre de jours de grève.
Au Nigeria, une sage-femme enlevée au cours d'une attaque de Boko Haram à proximité d'un camp de déplacés dans le nord-est du pays, il y a 6 mois, a été tuée par les djihadistes. D'après le Comité international de la Croix-Rouge, l'agence humanitaire condamne ce qu'elle appelle le meurtre tragique de Saifoura Husseini Ahmed Korsa, enlevée le 1er mars dernier par les djihadistes de Boko Haram dans la ville de Ran. Le CICR demande à Boko Haram de libérer une autre sage-femme et une infirmière toujours entre les mains du groupe. Pour sa part, Human Rights Watch demande au Nigeria de faire en sorte que les procès de membres présumés de Boko Haram répondent aux normes internationales. L'ONG s'inquiète des procédures judiciaires et des périodes de détention prolongées. Les procès de 1669 suspects, dont certains étaient détenus depuis plusieurs années, ont débuté en octobre de l'année dernière devant des tribunaux civils mis en place dans une base militaire éloignée de l'État du Niger, dans l'ouest du Nigeria. En Éthiopie, des groupes de manifestants ont paralysé Addis Abeba ce lundi après les affrontements intercommunautaires qui ont fait 23 morts ce week-end en périphérie de la capitale éthiopienne, Nani Talani.
Le chef de la police éthiopienne, Zeynou Djemal, a indiqué que la police a tué 5 manifestants, les décrivant comme des dangereux vagabonds qui tentaient de piller des propriétés et voler des armes de la police. Ce matin, plusieurs personnes sont descendues dans les rues de la capitale pour protester contre des violences survenues ce week-end à Bourayou, à l'ouest d'Addis Abeba, en région Oromo, faisant 23 morts et 886 déplacés. Ils accusent des groupes de jeunes Oromo d'y avoir visé d'autres ethnies minoritaires qui se sont installées autour de la capitale. 200 suspects ont déjà été interpellés. Le premier ministre Abiy Ahmed a fermement condamné ces meurtres et actes de violence contre d'innocents citoyens. Il estime que ces lâches attaques représentent une préoccupation pour l'unité et la solidarité du peuple éthiopien et promet d'y répondre de manière appropriée. Ces violences coïncident avec le retour samedi en Éthiopie de dirigeants du Front de Libération Oromo, un groupe de rebelles qui a bénéficié de la politique réformatrice du nouveau gouvernement éthiopien menée par Abiy Ahmed, lui-même Oromo.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux Philippines, les sauveteurs s'efforcent de retrouver ce lundi des dizaines de disparus sur le site d'un énorme glissement de terrain après le passage du typhon Mangkhut qui a fait au moins 65 morts dans l'archipel. Le typhon a également dévasté Hong Kong et causé au moins 4 morts et des millions d'évacuations dans le sud de Chine, de la Chine où des rivières sont en crue. Aux États-Unis, la montée des eaux après le passage de l'ouragan Florence qui a tué au moins 17 personnes dans le sud-est du pays fait craindre des glissements de terrain et ruptures de barrages. Nathalie Barge.
Les pluies diluviennes continuent sur certaines zones. Des villes entières sont complètement isolées par les inondations. Les principales autoroutes sont couvertes et plus de 700 000 foyers n'ont pas d'électricité. Florence devrait continuer de s'affaiblir avant de se réintensifier au fur et à mesure de sa transformation en cyclone extratropical mardi et mercredi, selon le Centre national des ouragans. Les prévisionnistes ont averti de fortes pluies durant les 2 prochains jours, avec un risque élevé de glissement de terrain et de crues subites catastrophiques dans les 2 États de Caroline et en Virginie. Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a demandé à la population de se tenir prête à évacuer sur demande. 15 000 personnes se sont réfugiées dans 150 centres d'accueil mis en place dans l'État. Le président Donald Trump, qui a reçu un briefing sur l'intervention d'urgence ce matin, visitera la région ravagée par la tempête dans les prochains jours, indiquait la Maison-Blanche.
Toujours aux États-Unis, le candidat du président Donald Trump à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, a une nouvelle fois catégoriquement contesté ce lundi les accusations d'agression sexuelle le visant. Il assure être prêt à s'exprimer devant le Sénat pour défendre son honneur. Christine Blasey Ford, professeure universitaire de psychologie âgée de 51 ans, affirme avoir été agressée lors d'une soirée au début des années 1980 par Brett Kavanaugh, qui était alors dans un lycée privé dans la proche banlieue de Washington. Un vote en commission sénatoriale est prévu jeudi sur la confirmation de Brett Kavanaugh avant le vote final en séance plénière qui pourrait intervenir dès fin septembre. Et puis, pour la première fois en 40 ans, le chanteur britannique Paul McCartney est en tête des ventes d'albums aux États-Unis dans le classement Billboard avec son dernier album Egypt Station. À 76 ans, le bassiste des Beatles a sorti son 17e album solo, un opus de 16 titres, acclamé par la critique et les fans, et produit notamment par Greg Kurstin, l'homme derrière les succès de la chanteuse Adele. Et voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
En Tunisie, 33 projets d'une valeur de 5,4 milliards d'euros seront examinés demain à Tunis au Forum international sur les partenariats publics-privés. Un millier de participants, investisseurs industriels et financiers, dont 250 entreprises étrangères, y sont attendus. Ils devront juger de la pertinence de financer un port en eau profonde, une usine de dessalement, un pont entre l'île de Djerba et le continent, ou encore une cité gouvernementale à Tunis. En Égypte, dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministre du Pétrole et des Mines annonce avoir signé un contrat d'exploration pétrolière et gazière en profondeur avec la Britannique Royal Dutch Shell et la compagnie malaisienne Petronas. Ces deux entreprises vont investir près d'un milliard de dollars pour le forage de 8 puits dans le delta du Nil occidental. Le second contrat d'une valeur de 10 millions de dollars a été signé entre l'entreprise publique EGPC avec Rockcopper, Kuwait Energy et Dover Corporation pour le forage de 4 puits d'exploration dans le désert occidental. Enfin, l'État camerounais va bénéficier d'un crédit d'un montant de 55 milliards de francs CFA, soit environ 1,1 million de dollars auprès de la Banque africaine de développement. Ces fonds devront servir à financer des projets dans les secteurs de l'élevage et de la pêche.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Tragique bousculade en Ligue africaine des champions en Angola.
Oui, 5 personnes sont mortes, dont 2 enfants asphyxiés lors d'une bousculade à l'issue du match entre le Primeiro de Agosto et le tout-puissant Mazembe. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère angolais des sports. Le drame s'est produit lorsque le public a quitté ce stade, dont les tribunes de 50 000 places étaient quasi pleines. Une commission d'enquête va être chargée de faire la lumière sur ce drame.
Et sur le volet sportif,
0-0 justement entre les Angolais du Primeiro de Agosto, accrochés à domicile par les Congolais du tout-puissant Mazembe. Même score à Conakry où le Oroya n'a pas réussi à marquer contre les Égyptiens d'Al Ahly. L'entente de Sétif a dominé le tenant du titre, le WAC de Casablanca. Grâce à un but du Sénégalais Isla Diomandé à la 16e minute de jeu, l'Espérance de Tunis a pris une option dans le derby tunisien grâce à sa victoire 2-1 face à l'Étoile du Sahel.
Les résultats des quarts de finale de la Coupe CAF.
L'USM Alger surpris par El Masri en s'inclinant 1-0. À Kinshasa, l'AS Vita Club a renversé Berkane. Les Dauphins Noirs ont pris une option sur la qualification en battant la Renaissance 3-1. Belle opération réalisée par le Raja de Casablanca à Brazzaville. Une victoire 2-1 contre le Cara. Pas de vainqueur en revanche entre le Rayon Sport et Enyimba au Rwanda.
Et la Ligue des Champions reprend ses droits demain en Europe.
Le Barcelone accueille le PSV Eindhoven, le choc l'Inter de Milan contre le Tottenham, Bruges contre le Borussia Dortmund, Monaco qui accueille le vainqueur de la Ligue Europa et de la Supercoupe d'Europe, l'Atlético Madrid, le choc à Anfield Road entre les Reds de Sadio Mané et de Mohamed Salah face au Paris Saint-Germain de Neymar et Kylian Mbappé, l'Étoile Rouge à Belgrade accueille Naples, le Galatasaray face au Lokomotiv Moscou et enfin Schalke 04 contre le FC Porto. du Camerounais Vincent Aboubakar.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Un grand merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Au Rwanda, le président Paul Kagame a accordé une grâce présidentielle à 2140 prisonniers. L'une des principales figures de l'opposition rwandaise, Victoire Ingabire, est sortie de prison samedi après 8 ans de détention. Pour témoignage, Eric Manirakiza s'est entretenu en exclusivité avec l'opposante Victoire Ingabire.
Oui, ça a été une grande surprise parce que je l'ai appris jeudi vers 23h à la radio. Et puis le lendemain matin, vers 6h30, le commissaire général m'a remis ma lettre de libération.
Quel est le sens que vous donnez à votre libération, surprise?
J'espère que c'est le début de l'ouverture de l'espace politique au Rwanda. Parce que vous voyez, j'ai été libérée quelques semaines après que le Parti des Verts avait été agréé au sein du Parlement. Et vous savez, le Parti des Verts, c'est un parti qui a aussi rencontré beaucoup de difficultés. Alors, si cette fois-ci, il a été accepté, et quelques semaines après, le président Kagame m'accorde la grâce présidentielle. Donc, je pense que c'est vraiment un bon signe qui montre bien que on est en train de s'acheminer vers l'ouverture de l'espace politique au Rwanda.
Quelle a été votre expérience pendant votre séjour entre les quatre murs?
Entre les quatre murs, l'expérience que j'ai essayé d'avoir de la patience, savoir écouter les autres et essayer de trouver une bonne entente entre vous. Vous voyez, ces 3 dernières années, c'est là où j'étais en prison avec les autres. Là, vous voyez, c'est le milieu où il y a les gens de différents niveaux, que ce soit intellectuel, que ce soit la manière de vivre, tout ça. Donc, c'est un endroit où il faut vraiment apprendre à vivre avec tout le monde, à écouter tout le monde.
Un moment aussi pour méditer sur votre combat politique?
Oui, bien sûr. C'est un bon moment aussi de prendre le recul et de voir comment améliorer la lutte et comment arriver à l'objectif de lutter pour l'ouverture d'espace politique au Rwanda.
Est-ce qu'il y a d'autres prisonniers d'opinion comme vous qui ont été libérés?
Non, sauf Kizito. Il n'y a pas d'autres. Donc, Moussa Idi est toujours là. Mademoiselle Ouigara Diane est toujours là. Le docteur Nitegeka est toujours là. Donc, je pense que je vais essayer de contacter les autorités pour essayer de plaider la cause de mes compagnons de lutte. Vous savez aussi qu'il y a les membres de mon parti politique, dont mon vice-président, dont le secrétaire général du parti, sont là avec d'autres membres de mon parti. Donc, j'essayerai de faire comprendre au régime qu'emprisonner les gens de l'opposition, ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Et puis, le gouvernement n'a aucun intérêt de garder ces gens dans la prison.
L'opposante rwandaise, Victoire Ingabire, jointe à Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Zoom à présent sur cette grande première en Afrique où des moustiques mâles, stériles, génétiquement modifiés, seront lâchés dans l'ouest du Burkina Faso pour combattre le paludisme. Oui, vous m'avez bien entendu. En fait, ça s'est fait aussi ailleurs. Alors, c'est la première phase d'un projet porté par Target Malaria et financé par la fondation Bill et Melinda Gates à hauteur de 70 millions de dollars pour lutter contre cette maladie. Malgré toutes les garanties, les inquiétudes des populations demeurent. Sur place, le reportage du correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le gouvernement burkinabé, à travers l'ANB, Agence nationale de biosécurité, a donné l'autorisation pour procéder au lâcher des moustiques génétiquement modifiés, des mâles stériles, sur un site d'étude à Bama ou à Surkundigé, de petites localités proches de Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso. Selon les responsables du projet, l'opération va consister à lâcher au total 10 000 moustiques dans la nature. Docteur Abdoulaye Diabaté, principal instigateur du projet Target Malaria.
Nous avons eu cette autorisation pour pouvoir lâcher au plus 10 000 moustiques mâles stériles. Quand est-ce que nous allons faire le lâcher? Cela dépend en fait de plusieurs facteurs. Et il faut en fait que les conditions météorologiques soient extrêmement bonnes pour que nous puissions procéder au lâcher. Ça va dépendre un peu aussi en fait du niveau de production de ce moustique que nous avons à l'insectarium.
Target Malaria a donc pour objectif ultime de pouvoir développer un outil génétique innovant de lutte antivectorielle, mettre un terme au paludisme. Mais nous n'en sommes pas là. Et déjà des inquiétudes, des avis divergents des populations de Bobo du Lasso, la région concernée.
Si c'est pour chuter le taux de paludisme, en tout cas, voilà, moi je suis pour.
Si on corrige les risques, c'est parce que nous n'ayons pas des effets indésirables non maîtrisables.
À Target Malaria, on rassure, il n'y a aucun risque. Docteur Abdoulaye Diabaté.
Ce sont les mâles que nous lâchons. Et les mâles de moustiques, déjà dans un premier temps, ne piquent pas. Donc ça veut dire en fait qu'ils ne peuvent transmettre aucune maladie. Nous avons quand même les garanties nécessaires par rapport à ces questions-là. Je veux rassurer tout le monde ici que les questions de sécurité sont au cœur du développement en fait de cette technologie au sein du Target Malaria. Et on ne s'amuse vraiment pas du tout avec cette question. C'est extrêmement important.
Les communautés locales ont été impliquées dans le projet Target Malaria. Et elles acceptent ces lâchers de moustiques. Docteur Léa Paré est responsable de l'engagement avec les parties prenantes pour Target Malaria.
Nous avons obtenu l'acceptation de ces communautés pour notre travail sur les lâchers de moustiques stériles mal génétiquement modifiés.
C'est le même son de cloche du côté du gouvernement burkinabé à travers son porte-parole, Rémi Dangino.
Ce gouvernement a adopté il y a quelques mois de cela un décret qui fait que les populations participent à tout ce qui est le développement de la biotechnologie, bioéthique dans nos régions.
Le paludisme a fait au Burkina 4000 décès, dont 3000 chez les enfants de moins de 5 ans en 2016, selon le Programme national de lutte contre le paludisme. Il demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans le pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Cap maintenant sur la Guinée où les poubelles de Conakry peuvent être une véritable mine d'or pour ceux qui ont choisi d'y fouiller à la recherche d'objets qui seront ensuite transformés. C'est le cas d'une jeune fille qui a réussi à ouvrir une galerie de meubles fabriqués à partir d'objets de récupération. Notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara, l'a rencontré. Reportage.
Au milieu des ordures, Aïcha Traoré n'a Dieu que pour les pneus usés. Cette jeune fille diplômée en journalisme fréquente régulièrement les dépotoirs de la capitale à la recherche d'objets qui lui servent de matière première.
La première phase de la collecte de pneus, c'est dans les décharges que je prends généralement. Ici, quand j'arrive, j'essaie de détecter les pneus afin de les sélectionner et voir. Quels sont les pneus que moi je peux utiliser dans ma confection des pneus pour ces tables, dans mon recyclage?
Si ces pneus peuvent se retrouver dans les salons, les habitants proches des tas d'ordures comme Mohamed se réjouissent de ne plus être victimes des fumées des pneus brûlés par des enfants.
Nous-mêmes, nous le savons que réellement les pneus ne sont pas bons. En les brûlant, ce n'est pas bon pour la nature. Ça rend malade la population et ça crée aussi certains problèmes.
Aïcha Traoré quitte le dépotoir avec quelques pneus, direction son atelier. Les pneus sont ensuite lavés et peints avant la prochaine étape.
L'étape du lavage des pneus est primordiale puisqu'on ne peut pas faire des coupes, on ne peut pas faire du recyclage sans laver les pneus. Il faut qu'au préalable, tout soit bien propre, bien désinfecté et prêt pour le recyclage.
Pour le recyclage, Aïcha utilise du bois qu'elle découpe à l'aide d'une scie. Ensuite, le reste est assemblé pour donner des poufs de plusieurs modèles. Un résultat qui satisfait la jeune décoratrice après un début difficile.
Tout début est très difficile puisque d'abord, c'était très compliqué pour les gens d'imaginer un pneu sale qui vient d'une décharge ou qui vient de chez un garagiste. Et c'était pas facile pour eux d'imaginer ça dans leur maison. Donc il fallait d'abord sensibiliser, leur faire comprendre qu'il y avait d'abord l'aspect environnemental, mais aussi l'aspect décoratif, parce qu'il fallait qu'ils s'habituent.
La jeune créatrice a fabriqué plusieurs dizaines de poufs et livré de nombreuses commandes. Les clients semblent satisfaits. Fanta Diaby est chef d'entreprise.
J'ai vu les produits sur Internet, ils étaient super bien jolis, j'ai bien aimé. Et vu que je comptais aménager un coin pour jeunes entrepreneurs, Donc je veux vraiment mettre lumière sur des produits locaux. Et c'est ainsi que j'ai pris contact avec elle, j'ai passé la commande et ça s'est super bien passé. J'ai assez de pouf partout dans la maison, c'est confortable, les gens peuvent l'utiliser pour s'asseoir ou même mettre des objets dedans. Et c'est bien apprécié par tout ce qui passe dans la maison.
Acha expose ses meubles dans sa galerie à Conakry. Elle a décoré des bureaux de plusieurs entreprises dans la capitale. Zakaria Camara, Conakry, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VO Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, le sud-est du pays est toujours sous la menace des inondations. Devant la montée des eaux, sauveteurs et forces de l'ordre restent mobilisés pour porter secours aux populations menacées. Pour un témoignage, Yacouba Ouedraogo a joint Moore Diop, résident de la Caroline du Nord.
Venant de chez moi et en train de voir la route qui me mène directement au boulot, j'ai pu apercevoir quelques segments de route carrément inondés. Donc les gens sont obligés de faire des détours, et ce qui va prendre quand même un peu de temps, et plutôt sur l'instauration de l'électricité pour certains résidents qui n'ont pas l'électricité depuis presque vendredi. Et je pense que ça va poser quelques problèmes pour les équipes des compagnies d'électricité. Le centre-ville est inondé. Il y a des routes qu'il faut carrément éviter et c'est un peu difficile en ce moment, vraiment.
Est-ce que les gens arrivent à mener leurs activités?
Et en conduisant, j'ai pu voir certains commerces qui étaient carrément fermés. Bon, les supermarchés, il y en a qui sont un peu ouverts. Il y avait un peu de trafic quand même. Mais bon, là, on ne peut pas dire réellement si les gens vont à leurs activités ou pas. Mais toujours est-il qu'il y a des problèmes.
Dites-nous, les coupures d'électricité, c'est un peu partout dans la ville ou c'est une partie de la ville qui est affectée?
C'est une partie de la ville. Je dirais même en dehors de la ville. Parce que pour accéder à ces zones, je pense qu'à cause des inondations, ça va prendre du temps. Là, j'ai eu l'opportunité de parler à un ami qui m'a dit qu'il n'a pas encore l'électricité depuis vendredi. Donc, ça va prendre du temps parce que les équipes, d'après ce qu'ils ont dit, il ne faut pas accéder à ces zones.
Qu'est-ce que les autorités locales là-bas vous passent comme message?
Le message que j'ai pu entendre, c'est les messages de sécurité. En fait, il faut éviter de sortir, de conduire, parce qu'il y a trop de zones. D'après ce qu'ils ont dit, ils sont carrément inondés et ils veulent que les gens restent chez eux. Et sinon, pas vraiment une préoccupation majeure. Par exemple, sortir pour aller prendre quelque chose ou pas. S'ils n'ont vraiment pas besoin de ça, ils n'ont qu'à rester chez eux jusqu'à ce que les routes se dégagent et qu'ils puissent faire leur travail.
Est-ce qu'il est prévu qu'il y a encore des intempéries?
D'après la météo que j'ai pu écouter hier ou même regarder, d'après ce qu'ils ont dit, normalement, on doit avoir une période d'accalmie pour le reste de la semaine. Là, le soleil, en fait, est en train de sortir. Mais bon, il y a quelques nuages quand même. Mais ils n'ont rien annoncé comme tempête. En fait, ils ont signalé quelques tornades isolées de part et d'autre, mais bon, on n'est pas sûr.
Jusque-là, on ne vous a pas dit exactement quand est-ce que tout cela va finir?
Les messages qu'ils ont eu à distribuer, c'est des messages de sécurité. Donc, ils ne peuvent pas dire carrément quand est-ce que ça va tout finir. Les écoles sont fermées jusqu'à mercredi. Il faut voir peut-être d'ici le week-end prochain où on pourra voir quand même quelques améliorations. Mais là, en ce moment, je crois que c'est la prudence partout, ne pas sortir, éviter les zones et laisser les équipes faire le travail.
L'immigré africain Moore Diop était en ligne de la Caroline du Nord.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. C'était Joe Gill à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA